Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir comment recueillir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous immerger dans le monde du problème et ainsi démarrer votre projet sur de bonnes bases. Pour ça, je vous propose d'utiliser une checklist pour conduire vos recherches. Alors, pourquoi une checklist? Eh bien, tout simplement parce qu'il est plus facile d'obtenir les bonnes informations quand on se pose les bonnes questions. Dans les faits, vous trouverez plus facilement des infos pertinentes pour votre projet d'innovation dès lors que vous savez ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin. Cette checklist de collecte d'informations sera pour vous une aide vraiment précieuse pour guider votre exploration dans différents domaines à prendre en compte pour la réussite de votre projet. Vous voyez, dans le cadre d'un projet d'innovation, il existe toujours des zones d'ombre pour lesquelles vous manquez de connaissances. Et c'est plutôt normal, lorsque vous explorez un nouveau territoire, on manque généralement de connaissances. D'ailleurs, méfiez-vous plutôt de l'inverse, si vous estimez maîtriser parfaitement tous les aspects de votre projet, c'est qu'en réalité, vous n'innovez pas vraiment, vous êtes tout simplement en train de vous limiter à vos connaissances actuelles. Avant de vous lancer corps et âme dans votre projet, rappelez-vous qu'il y a sur Terre beaucoup plus de choses que vous ne connaissez pas que de choses que vous connaissez. Alors ça semble évident dit comme ça, et ça l'est, je vous rassure, mais force est de constater qu'on n'en a pas toujours conscience. Dites-vous aussi que la connaissance est la ressource principale dont vous avez besoin pour alimenter votre processus créatif. D'ailleurs, par expérience, il vaut mieux prendre en compte une information importante au plus tôt dans un projet pour ne pas avoir à jouer au pompier par la suite. Les coûts d'un changement éventuel sont toujours moins coûteux en début de projet, si vous voulez, c'est le moment où vous êtes le plus agile. En revanche, face à une recherche sur un thème d'innovation, le problème principal est souvent de définir quoi chercher. Alors, la question est bien normale et bien légitime, car on n'est pas expert dans tous les compartiments d'un projet. En réalité, sans une démarche structurée, vous pouvez vagabonder sur Internet pendant des heures en tournant autour des mêmes recherches. C'est la raison pour laquelle il vous faut une méthode pour vous guider dans votre recherche et être sûr de couvrir tous les champs de vos besoins d'information. Maintenant, laissez-moi vous présenter les informations dont vous avez besoin pour votre projet. Pour appréhender un projet d'innovation de la bonne manière, vous devez avoir une vue d'ensemble. Si vous voulez, pour développer un produit innovant, vous allez inévitablement vous poser des questions tout au long de votre projet, c'est normal. Mais si vous voulez que votre projet soit cohérent, il vous faut cette vue d'ensemble, c'est nécessaire. C'est la raison pour laquelle votre collecte d'informations doit être assez large dès le début. En réalité, tous les aspects de votre projet sont interdépendants. Comment pourriez-vous concevoir votre produit avec le choix d'une technologie sans penser en même temps à son usage, sa fabrication, son impact sur l'environnement et au marketing? Écoutez, c'est juste pas possible en réalité. Pour faire simple, vos besoins peuvent se structurer autour de quatre thèmes qui vous immergeront dans l'univers du produit. Tout d'abord, la technique, pour faire un large point sur les fonctions, les matériaux, le système, les procédés de production et la qualité. Ensuite, l'usage, pour prendre en compte le profil utilisateur, l'utilisation et l'apprentissage. Puis le marketing, pour comprendre la construction de l'offre actuelle et la manière dont les marques communiquent. Et enfin, l'environnement, pour prendre en compte l'un des plus grands défis qui nous attend et pour lequel, nous sommes tous acteurs. Alors, pour aller plus loin sur ces quatre thèmes de recherche, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que probablement l'information dont vous avez besoin existe sur Internet. La mauvaise est que vous ne savez pas forcément comment formuler vos recherches sur ces quatre thèmes. Alors, c'est pourquoi, pour vous aider dans l'inventaire des choses importantes à collecter pour votre projet, je vous propose une checklist sous la forme d'un questionnement facile à utiliser. Ça vous donnera l'occasion de savoir où vous en êtes et décider sur quels axes orienter vos recherches. Tout d'abord, immergeons-nous dans tout ce qui concerne la technique du produit. Et commençons par les fonctions du produit. Les questions que vous devez vous poser sont les suivantes. Quels sont les services attendus pour ce produit ? C'est une question toute simple, mais vraiment essentielle. Ça revient à se poser la question de à quoi ça sert en réalité. Ensuite, comment l'offre actuelle y répond-elle? Alors vous voyez, ça peut se faire très simplement en faisant en quelque sorte un benchmark sur les produits référents. Puis, existe-t-il des contraintes particulières dans certains pays? Quel est d'ailleurs le pays le plus exigeant? voyez, par exemple, si on prend l'exemple du Japon, eh bien, ils sont très très exigeants sur la qualité de fabrication et le bruit notamment. C'est quelque chose qui les préoccupe plus qu'en Europe, par exemple. Quelles sont les normes à suivre? Donc là, c'est aussi quelque chose qui est essentiel. Vous voyez, par exemple, dans le bâtiment, les normes antisismiques, eh bien, imposent des contraintes particulières que chaque fabricant doit prendre en compte, évidemment. Ensuite, quel niveau de performance est attendu sur ce produit? Vous pouvez par exemple prendre en considération la durabilité, la consommation, la sécurité, le contrôle. Vous voyez, tous ces critères-là doivent vous questionner. Puis, quelles sont les insatisfactions ou les gênes à éliminer sur ce genre de produit? Vous voyez, vous pouvez par exemple consulter les retours clients, les forums. Il y a une foule d'informations sur ces sites-là. Une autre question, c'est quels sont les dangers ou les risques à prendre en compte? Donc ça, on retrouve également des informations pertinentes sur des blogs, sur des sites institutionnels. Donc voilà, c'est une source d'informations qui est également disponible sur Internet. Une autre question, le produit fait-il partie d'un écosystème et quelles sont les interactions entre les produits? Alors là, évidemment, il est important de connaître ce contexte pour le prendre en compte dès le départ. Et enfin, le produit doit-il être portable ou transportable? Vous voyez, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais il vaut mieux les intégrer également dès le départ. Sur ce thème des fonctions, évidemment, si vous avez fait une analyse fonctionnelle auparavant, il y a de grandes chances que vous soyez déjà posé toutes ces questions. Mais pour être honnête, on ne fait pas une analyse fonctionnelle pour chaque nouveau produit, ça se saurait, et il est bien utile quelquefois, même bien souvent, eh bien, de se poser toutes ces questions. Maintenant, faisons un point sur des questions en lien avec les matériaux utilisés. Alors, les questions que vous pouvez vous poser sont les suivantes. Quels sont les matériaux et les technologies envisageables sur ce produit? Ça vaut le coup de regarder ce qui se fait, mais aussi ce qui pourrait se faire en regardant dans d'autres domaines proches, mais finalement plus en avance technologiquement, ça peut vous inspirer. Ensuite, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, évidemment? Puis, doivent-ils résister à un milieu extérieur agressif, comme par exemple la température, la lumière, l'eau? Donc là, évidemment, ça impose des contraintes particulières. Et une autre question, c'est quels doivent être leurs critères de performance, notamment mécaniques, électriques, magnétiques? Vous voyez, sur toutes ces données physiques, vous devez vous poser des questions. Et enfin, doivent-ils avoir un aspect de surface particulier, notamment le toucher, l'aspect visuel ou l'entretien? Vous voyez, toutes ces infos eh bien, vont vous aider dans le futur choix des composants. Toujours concernant les matériaux, on peut aussi se poser les questions suivantes. Sont-ils concernés par des normes? Vous voyez, il faut être vigilant sur ce point pour faire les bons choix dès le début. Quelles sont leurs disponibilités? Dans quel délai ils sont livrables? Dans quel pays d'ailleurs? Vous voyez, lorsque l'approvisionnement est lointain, c'est quelque chose qui est quelquefois difficile. Et on est des fois contraint, si vous voulez, de se déplacer pour pouvoir rencontrer finalement des fournisseurs, bien se comprendre sur le niveau de qualité. Et bien tout ça, vous voyez, il faut prendre en compte dès le départ. S'il s'agit d'une nouvelle technologie, vous pouvez vous poser la question à savoir quel est son niveau de maturité. Si vous devez essuyer les plâtres sur une nouvelle technologie en cours de mise au point, mais il vaut mieux le savoir également dès le début. Mais ça peut être aussi, vous voyez, une super opportunité de prendre de l'avance sur les autres. Et enfin, la dernière question concernant les matériaux, existe-t-il des matériaux biodégradables ou recyclables pour ce produit? Si vous avez le choix, évidemment, il vaut mieux faire un geste pour la planète et intégrer les bonnes contraintes pour la conception qui suivra. Maintenant, parlons du système et de sa façon de fonctionner. Ça revient à se poser une question toute simple, c'est-à-dire comment ça marche? Les questions que vous pouvez vous poser sont les suivantes. Est-ce que le système est énergétiquement propre, c'est-à-dire, vous voyez, le rapport entre ce qu'il consomme et le travail qu'il fournit? Et d'ailleurs, quels choix sont possibles pour le rendre encore plus propre, c'est-à-dire le choix d'énergie, par exemple? Est-ce que le fonctionnement du produit est efficace? Ça pose la question du rendement, si vous voulez. Est-ce que le contrôle du fonctionnement du produit doit être précis? Et si oui, pourquoi? Vous voyez, une bonne partie de l'inefficacité d'un produit peut provenir d'un manque de contrôle. Or, vous devez vous intéresser à ce critère-là, évidemment. Et enfin, est-ce que ce système génère un déchet? Existe-t-il des solutions pour l'éviter? Les déchets, qui soit dit en passant, peuvent aussi devenir à leur tour une ressource. Maintenant, parlons des procédés de production, car il est extrêmement important d'avoir une vision produit-process claire au plus tôt dans votre projet. Ce sont, si vous voulez, les deux faces d'une même pièce, l'un va avec l'autre. Ce qui revient à se poser les questions suivantes. quelles sont les mises en œuvre possibles, et le pendant à cela, évidemment, quels procédés de production peuvent être utilisés, et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Quels sont les impacts de la fabrication sur l'environnement? Ça, c'est bien de le savoir, mais surtout, existe-t-il des moyens de production plus propres? C'est à ce moment-là qu'il faut se poser toutes ces questions. Quels sont les investissements à prévoir? Il vaut mieux être lucide sur l'aspect financier pour être au clair sur la rentabilité future du projet. Et puis enfin, existe-t-il des procédés de production pour de petites séries? Vous voyez, c'est notamment utile au lancement du projet pour minimiser les investissements face à l'incertitude du succès du produit. Maintenant, abordons un autre thème qui est celui de la qualité. Quel est le niveau de qualification requis pour ce produit? Vous voyez, c'est évidemment très variable selon les produits, mais quelquefois des normes sont imposées par le marché. C'est le cas par exemple dans les volets roulants avec la norme NF fermeture. Mais vous voyez, sans cette qualification, vous n'avez tout simplement pas accès au marché. Puis une autre question, existe-t-il des directives imposées pour la commercialisation du produit? Soyez vigilants par rapport aux zones de distribution notamment. Par exemple, aux États-Unis, cela peut même être différent entre les États, donc il vaut mieux faire attention à ces points-là. Puis, existe-t-il des labels de qualité spécifiques? Là aussi, certains labels sont imposés par le marché. Par exemple, en peinture, le label Calicoat est un basique dans le bâtiment pour tout ce qui est menuiserie thermolaquée. Puis, quel contrôle clé doit être réalisé en production et à quel moment? C'est quelque chose qu'il est difficile à savoir par Internet, mais plus en discutant avec les fournisseurs. Et enfin, comment est traité le service après-vente actuellement? Il est toujours intéressant, vous voyez, d'avoir un regard sur cet aspect, car c'est à prendre en compte dans la rentabilité du projet. Par exemple, si vous êtes obligé de vous déplacer pour chaque problème ou de remplacer un produit complet, à chaque fois qu'il y a un petit souci, ça peut vite devenir problématique. Maintenant, voyons comment collecter les infos dont vous avez besoin pour vous immerger dans l'usage du produit. Commençons par le profil de l'utilisateur, ce qui amène plusieurs questions, notamment qui sont les clients et les utilisateurs? Attention, ils peuvent être différents, vous voyez. Par exemple, pour des couches bébés, les clients sont les mamans et les utilisateurs sont les bébés. Puis une autre question, quelles sont les données anthropométriques de base, comme par exemple la taille, le poids? Ça peut être assez différent selon les zones de distribution. Par exemple, dans les chaussures, la forme des pieds est différente, vous voyez, entre l'Europe et l'Asie. Donc il faut prendre en compte ces données-là au moment où on se lance dans le développement d'un nouveau produit. Puis, quels sont les aspects culturels ou sociologiques particuliers à prendre en compte? Par exemple, si vous développez un produit en lien avec l'hygiène ou la beauté, eh bien, il n'y aura pas les mêmes attentes entre l'Europe, le Japon et l'Afrique, par exemple. Mais aussi, quelles sont les tâches à accomplir par l'utilisateur? Et notamment se poser la question suivante, qui est évidemment très liée, c'est-à-dire, comment se déroule-t-elle dans le temps et dans l'espace? Vous voyez, avec cette vision chronologique, eh bien, c'est un bon moyen pour définir in fine quelles sont les tâches insatisfaisantes pour l'utilisateur d'un point de vue physique ou mental. Ça peut par exemple concerner l'effort, la fatigue, toutes ces choses-là. Puis, quelles sont les nuisances pour l'utilisateur en termes de bruit, de vibration, de lumière, d'odeur, de température, de poussière, etc., etc. Vous noterez qu'il est intéressant de se questionner sur les différents sens en éveil chez l'utilisateur. Et enfin, quels sont les points d'inconfort ou de douleur pour l'utilisateur en ce qui concerne la posture, une zone particulière? Ici, vous voyez, il s'agit plus de l'aspect ergonomique. Toujours concernant l'utilisation, quels sont les impacts du poids du produit sur son usage? Car pour un produit de grande taille, ça peut vite devenir un handicap. Ensuite, est-ce que les gens utilisent le produit de manière incorrecte? Que font-ils? Alors, je vous invite à observer les utilisateurs, ou le cas échéant, regarder au moins des vidéos sur Internet, si vous ne connaissez pas le produit évidemment. On découvre parfois des choses assez surprenantes, qui peut créer une vraie opportunité d'innovation. Puis une autre question, est-ce que les gens utilisent le produit pour un usage détourné? Lequel, si c'est le cas? Vous voyez, les extensions d'usage peuvent quelquefois représenter une partie importante d'un business. C'est le cas par exemple des chaussures de sport, mais ça peut être aussi une source d'inspiration pour un nouveau produit. Puis, existe-t-il des utilisateurs extrêmes? Si c'est le cas, je vous invite vraiment à les rencontrer, car il existe toujours de bonnes pratiques et des exigences particulières qui, quelquefois, pourraient être un vrai plus pour l'ensemble de la population. Et enfin, est-ce que les gens modifient les produits existants? Quelles fonctions apportent-ils en plus? il existe toujours des inventeurs bricoleurs dans tous les domaines, et bien ça vaut le coup de regarder ce qu'ils font. Un aspect qui va de pair avec l'utilisation d'un produit, c'est la notion d'apprentissage. Est-ce que la mise en œuvre ou l'usage nécessite une notice d'information? Alors si c'est le cas, faites en sorte que ce soit le plus facile pour l'utilisateur, car ça peut vraiment être un frein à l'achat ou une source d'insatisfaction importante qui générera in fine des problèmes en SAV. Puis, comment est-elle délivrée à l'utilisateur actuellement? C'est toujours intéressant de regarder comment font les autres et même d'acheter un produit pour vivre vous-même ce scénario d'apprentissage, ce qui vous permettra de répondre plus facilement à la question suivante, c'est-à-dire quel est le temps d'apprentissage du produit actuellement et est-ce un problème? Maintenant, voyons comment collecter les infos dont vous avez besoin pour vous immerger dans le marketing qui existe autour du produit. Tout d'abord, parlons de l'offre. Le produit fait-il partie d'une famille de produits? Et du coup, cela pose une autre question essentielle, à savoir, peut-il être vendu sans les autres produits ou la gamme doit-elle être complète? Là, vraiment, c'est une question qui est essentielle, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, quelles sont les préoccupations principales du client au moment de l'achat? Voyez, pour un produit, le moment de l'achat est une phase vraiment critique où le potentiel client peut renoncer au dernier moment, parfois pour un truc tout bête, donc voilà, il vaut mieux le savoir dès le début. Puis, comment les produits sont présentés au client au niveau du packaging ou sur le lieu de vente? Il est intéressant de comprendre les habitudes d'achat, et pour certains produits, le packaging et l'opération qui va avec peut coûter plus cher que le produit en lui-même. Alors c'est une situation que j'ai souvent rencontrée, notamment pour tout ce qui concerne les accessoires. Et enfin, quel est le niveau de garantie offert au client? Pour certains produits, cela peut devenir un vrai argument de vente, Donc du coup, vous devrez vous positionner par rapport à ça, entre un produit garanti 2 ans ou garanti à vie, évidemment, c'est pas du tout la même offre. Maintenant, parlons de la communication. Voyez, la communication, c'est un vrai révélateur pour comprendre le positionnement d'une marque et ce qui est essentiel à ses yeux. Alors, vous pouvez par exemple noter quels sont les slogans forts sur le marché et quelles sont les qualités mises en avant par les marques. Maintenant, voyons comment collecter les informations qui ont du sens pour mieux appréhender les notions environnementales qui concernent le produit. Alors tout d'abord, il faut bien cerner l'environnement du produit, c'est-à-dire dans quel milieu se déroule l'usage du produit, par exemple le lieu, les conditions climatiques, l'éclairage, le bruit. Vous voyez, le contexte de l'environnement viendra pondérer les nuisances éventuelles de votre produit dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, que doit faire l'utilisateur lorsque le produit arrive en fin de vie? Alors, c'est une notion importante pour la conception future à travers le choix des matériaux et leur mise en œuvre, parce que ça a un impact direct sur la capacité à être recyclé, notamment en fin de vie. Et d'ailleurs, peut-on limiter au maximum les nuisances du produit sur l'environnement? Là, c'est une question qui est également essentielle. Et y a-t-il un risque d'ailleurs pour l'environnement? Alors, vous devez réfléchir par rapport aux étapes du cycle du produit. Vous pouvez par exemple réfléchir sur la pré-production, la production, la distribution, l'utilisation, la post-utilisation, voire également l'élimination. Donc toutes ces questions-là doivent vous interroger. Alors concernant l'environnement, on peut aussi se poser des questions plus génériques qui viendront compléter tout ce qui a été vu avant, c'est-à-dire tout d'abord, y a-t-il un moyen de rendre le produit plus propre? Ensuite, a-t-on choisi la bonne source d'énergie face à l'environnement? Puis, a-t-on pris en compte les nuisances acoustiques, visuelles, chimiques? Et enfin, pourra-t-on utiliser le produit après l'usage? Et si oui, comment? Eh bien voilà, nous venons de voir quatre grandes checklists avec des sous-chapitres sur les quatre thèmes du TUM. Eh bien, à travers ces différentes checklists, vous voyez qu'il y a tout de même un certain nombre de questions qui méritent d'être posées avant de s'atteler à la tâche d'un projet. Alors évidemment, vous n'allez peut-être pas vous poser toutes ces questions-là, mais voyez ça quand même comme un fil directeur des questions qui doivent vous trotter en tête au moment de vos recherches sur Internet, quand vous regarderez un magazine ou alors quand vous discuterez avec vos fournisseurs. Alors maintenant, voyons ensemble comment compiler toutes ces informations. Pour faciliter la prise de notes, je vous propose de procéder de la manière suivante. Premièrement, définir le besoin d'information sur le produit. Alors c'est le thème de la recherche. Le besoin peut d'ailleurs être découpé en sous-besoins si nécessaire, ce qui permet d'ailleurs, lorsqu'on travaille en groupe, de pouvoir se répartir la tâche. Par exemple, si vous travaillez sur une nouvelle chaussure de running, il peut être pertinent de décomposer l'analyse entre la semelle et la tige. Or la tige, ce sont tous les matériaux souples qui coiffent le dessus de la chaussure. Deuxièmement, lorsque vous trouvez une information pertinente en réponse à une question posée, eh bien, il faut identifier la source d'information, alors la date, le nom de l'organisme, l'adresse du site internet, la référence de l'article, etc., etc. Bref, tout ce qui peut permettre de pouvoir la retrouver facilement. Troisièmement, comprendre la démarche suivie. Existe-t-il une stratégie qui explique le contenu de l'information récoltée? Vous voyez, il ne suffit pas juste de lire l'information, mais vraiment de la comprendre, de décoder vraiment ce qu'il y a derrière, et de comprendre ce qui a amené finalement une marque à proposer telle et telle chose. Quatrièmement, quels sont les résultats obtenus? Puis, classer les informations suivant les thèmes thumes proposés. Et enfin, sixièmement, évaluer l'importance de l'information. Alors soit vous pouvez la noter de A à 5, ou alors à minima stabiloter l'information importante, la surligner, l'écrire en rouge. Tout du moins, au moment où vous aurez quand même pas mal d'informations, ce qui est important, c'est quand même de faire ressortir l'information qui est essentielle parmi toutes celles que vous aurez récoltées. Alors ne pas oublier que vous travaillez, pour la plupart d'entre vous, en équipe. Donc si c'est le cas, eh bien, il est intéressant de se répartir les territoires d'exploration en fonction des compétences de chacun. Le résultat n'en sera que plus riche et ça commencera à sceller la cohésion de l'équipe, notamment à travers le partage de l'information, car une fois que la liste de sources d'information est finalisée, eh bien ça devient vraiment une vraie mine d'or. La mise en commun permet de voir s'il y a d'ailleurs un trou dans la raquette et auquel cas eh bien relancer une recherche si besoin. Alors le mieux est de valoriser vraiment cette restitution en réunion d'équipe, si vous le pouvez, eh bien pour favoriser, vous voyez, tous ces échanges. Vous pouvez aussi choisir de présenter les informations selon un plan qui suit le thème du TUM. Ça vous aidera à structurer comme ça la restitution de l'information. Et puis, ça permet surtout d'identifier les potentiels d'innovation sur le produit étudié. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment de collecter des infos pour enrichir votre niveau de connaissance sur votre produit. Alors, vous disposez à présent d'une checklist riche d'environ 60 questions pour vous guider dans votre collecte d'informations. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à la compléter si besoin en fonction de votre domaine. L'exercice que je vous propose de faire est le suivant. Tout d'abord, choisir un produit sur lequel vous voulez innover, pour lequel vous avez besoin d'informations, puis collecter des informations sur chaque thème du TUM à l'aide de la checklist que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Ensuite, sélectionner les informations les plus importantes et enfin, identifier les potentiels d'innovation pour votre futur produit. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous souhaite un bon exercice et à bientôt dans la prochaine vidéo.